Les cages flottantes, chapitre 9. Fatalitas. Chiribibi monta sur le pont dans le moment que Boule de Gomme, promu au grade de timonier-chef, recevait les instructions du timonier de l'ancien bord, resté de force au service du nouvel équipage, et criait au second timonier qui était à la roue « Barre à tribord toute, avant partout !» Au même moment, le chef mécanicien jetait ses ordres à la chaufferie. « En douceur, mollissez d'un quart !» Le pont était déjà envahi par les curieux. Chéri-Bibi les écarta brutalement et fut en trois bonds sur sa passerelle, hurlant. « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche, des naufragés? Vous trouvez qu'il n'y a pas encore assez de monde dans les cages ?» Il demanda une lunette et la dirigea vers un point blanc, une chaloupe que l'on distinguait maintenant très distinctement sur l'océan calme et bleu. Le temps était superbe, très beau certainement à cause du soleil ardent qui devait cuire les malheureux réfugiés dans la frêle embarcation là-bas et qui peut-être mourait de soif. La chaloupe était au plus à 3 encablures, 600 mètres environ, sur l'avant du baillard qui s'en rapprochait avec une assez grande rapidité. L'œil à la lunette, Chéri-Bibi regardait. Soudain, il lui échappa un « fatalitas » qui étonna l'état-major qui l'entourait. Qu'est-ce que le commandant avait pu découvrir dans sa lunette ? Chéri-Bibi maintenant ne regardait plus. Il s'était relevé tout pâle et murmurait des syllabes incompréhensibles. Puis il replaça sa lunette dans le champ, y recolla son œil, regarda encore longuement. Et cette fois, se releva tout rouge. À ne s'y point méprendre, Chéri-Bibi était dans un état de jubilation peu ordinaire. « Fatalitas !» reprit-il. « Mais elle est à la bonne !» Elle, c'était évidemment la fatalité, qui continuait à jouer de ses tours à Chéri-Bibi, mais il paraissait que, de ce coup-ci, il n'était point mécontent. « Messieurs, » dit-il, « nous allons porter secours à ces pauvres naufragés. » Il avait autour de lui son lieutenant, Gueule de Bois, son enseigne de vaisseau, la ficelle, Boule de Gomme, Petit Bon Dieu et les anciens principaux de sa cage. Il leur dit « Vous allez réunir vos hommes, tous les hommes, et leur annoncer que notre bonne fortune nous envoie des naufragés avec lesquels, je l'espère, il y aura affaire. Ceci me regarde. » Mais telle est pour le moment la consigne, que chacun se rappelle son grade et sa nouvelle situation, que personne ne commette de gaffe. Il n'y a rien de changé à bord depuis le départ du baillard de l'île de Ré, rien, sauf une sérieuse révolte de forçats, lesquels ont été mis finalement à la raison et ont retrouvé leur cage. C'est moi plus que jamais le commandant Barachon. Quant au commandant Barachon, c'est Chéri-Bibi. L'état-major éclata de rire. « Riez tout votre sou, » fit Chéri-Bibi, « car tout à l'heure il va falloir être sérieux, c'est compris. Eh bien, qu'on se le dise, je fais pendre haut et court le premier qui ne marche pas droit. Allez !» Les autres ne se le firent point répéter. Ils descendirent rapidement de la passerelle, et bientôt le clairon sonnait sur le pont. Quand tout l'équipage eut reçu le mot d'ordre, ce fut une joie indescriptible. Cet incident inattendu amusait les bandits au possible. Songez donc, il y avait des femmes dans la chaloupe. On allait leur montrer comment on portait l'uniforme et si on était un peu chic quand on le voulait dans la relingue. Ils surent tout de suite un gré infini à Chéri-Bibi de l'imagination de cette comédie, qui promettait d'être un passe-temps délicieux. L'influence que le nouveau commandant avait sur cet immonde pègre en fut extraordinairement augmentée. Au moins, voilà un chef qui savait rire, qui comprenait la vie. On ne s'embêtait pas avec lui. Tout était réglé selon les désirs de Chéri-Bibi. Le baillard se rapprocha de plus en plus de la chaloupe, d'où partaient des cris de joie, des bravos, des saluts enthousiastes. Chacun pouvait voir maintenant qu'ils étaient 10 là-dedans, 7 passagers et 3 matelots. Ils avaient un bout de toile qu'ils tenaient au bout d'une rame pour servir de signal. Ce qui réjouissait surtout les bandits, c'est que, de ces passagers, trois étaient des femmes, et qui, ma foi, paraissaient bien jolies. « Ah, les belles femmes !» exprima Petit Bon Dieu, qui reçut du reste, aussitôt dans la partie basse de son individu, un solide coup de pied de gueule de bois pour lui apprendre à bien se tenir dans le monde. L'extraordinaire était que ces naufragés ne paraissaient nullement affamés ni fatigués outre mesure. Enfin, ils n'avaient point cet air égaré des pauvres gens qui viennent d'échapper à la mort. Les femmes, par exemple, semblaient pleines d'entrain et fort bien portantes, vêtues le plus correctement du monde, la tête coquettement enveloppée de fichus, telles qu'elles se fussent présentées après une promenade élégante sur le lac. Au milieu du groupe des naufragés se tenait debout un homme grand et fort, large d'épaules, un de ces personnages qui, selon l'expression consacrée, quand il marche, déplace de l'atmosphère. La figure bien pleine, haute en couleur, et qui ne manquait pas cependant d'une certaine aristocratie à cause de la ligne du nez, dite bourbonienne, semblait appartenir à quelque gentleman farmer, ami des sports. Au-dessus des yeux bleus, les sourcils châtains étaient touffus et ajoutaient un peu de rudesse à une face qui, sans cela, eût pu passer dans sa lourde harmonie pour débonnaire. Chéri Bibi, penché au-dessus de la passerelle, ne quittait point des yeux le personnage. Et si tout cet équipage de brigands n'avait eu ses regards également tournés sur la barque, plus d'un aurait pu s'étonner de l'air singulièrement féroce que prenait la physionomie de Chéri Bibi au fur et à mesure que le bayard se rapprochait des naufragés. Ses mâchoires, qui s'avançaient comme pour mordre, laissaient siffler entre les dents menaçantes un nom, Maxime du Touchet. Chéri Bibi se redressa, domptant une agitation qui lui fait se ruer dès la première rencontre à la gorge de l'homme qui avait été, et qui était encore, le bourreau de ce qu'il aimait le plus au monde, de cet être idéal qui n'avait cessé de rayonner dans ses sanglantes ténèbres, de Cécilie. Refrénant une exaltation qui lui fait griller de bonheur devant la vengeance toute proche, le mari de Cécilie. C'est le dieu de ma sœur qui m'envoie cet homme, comme il l'eût envoyé au diable pour qu'il le châtie. Ah, c'est qu'il le haïssait, ce joli monsieur, qui avait eu le droit d'approcher son ange, alors que lui n'avait jamais osé le regarder de loin, et ne lui avait parlé, dans les jours heureux de sa jeunesse, que tête basse, en tremblant. Ah, quand il pensait que l'autre avait eu cette femme-là dans ses bras, et qu'il n'avait su que la faire souffrir, Chéri Bibi ricana comme ricanent les démons au fond de l'enfer de Dante, et il descendit vers les hôtes qui lui arrivaient si à point. Il était tout entier maintenant à son nouveau rôle de commandant. Il avait fait établir l'échelle à la coupée, et là, il attendait les naufragés qui descendaient déjà de leur barque, aidés par ses hommes. Le premier naufragé qui sauta sur l'échelle de coupée arracha encore à Chéri Bibi une exclamation sourde. « Robert Bourrelier !» Ah ça, mais c'était donc toute la famille que la fatalité lui envoyait. Et il se recula. Cette fois, il paraissait moins satisfait. Outre qu'il n'avait jamais eu à se plaindre du frère de Cécilie, il ne pouvait, par cela même que celui-ci était le frère de celle qu'il aimait, avoir de méchants desseins à son endroit. Mais surtout, il redoutait une chose maintenant, c'était d'être reconnu. Il n'avait point cette crainte du côté de Maxime du Touchet, qui certainement n'avait jamais jeté un regard sur l'humble garçon boucher du Paulet. Mais Robert Bourrelier, qui venait toujours aux vacances passer quelques semaines à la ville de Puy chez ses parents, pouvait fort bien ne pas avoir perdu tout à fait le souvenir des traits du petit du jardinier. Chéri Bibi, pour se rassurer, pensa avec raison qu'il avait beaucoup changé depuis ce temps-là, et que les extraordinaires péripéties de sa peu banale existence lui avaient fait un autre visage. Quand même, c'était une expérience à tenter. Il devait encore compter avec la publicité que les grands quotidiens avaient donnée, depuis ses crimes, à son inquiétante physionomie. Mais de ce côté, il avait été servi par le peu de valeur de la reproduction et la mauvaise qualité des photographies qui avaient servi à faire connaître son image au monde épouvanté. Les journaux avaient surtout montré quelqu'un de très laid, quelque chose comme une synthèse de la laideur, et ils avaient grossièrement accentué, pour les besoins du tirage, les stigmates de la férocité. C'était lui et ce n'était pas lui. Il y avait des moments où c'était peut-être lui, des moments de crise et d'action violente, mais pas des moments de bonheur comme celui-là, où, en qualité de capitaine de vaisseau, il s'apprêtait à donner l'hospitalité au personnage qu'il détestait le plus au monde, après l'homme au chapeau gris. Mais le sort en était jeté. Déjà, Robert Bourrelier apparaissait à la coupée. Chéri Bibi joua son jeu avec une audace parfaite. « Mesdames et messieurs, » prononça-t-il avec une emphase un peu comique, « soyez les bienvenus à mon bord. » Et il tendit la main au frère de Cécilie, qui la lui serra avec une émotion reconnaissante. Robert paraissait le plus fatigué de la bande. La santé de ce grand garçon efflanqué devait être précaire, et la mauvaise vie qu'il menait depuis son adolescence semblait l'avoir déjà marqué pour un prompt trépas. « Allons, » pensa chéri Bibi, « le marquis n'aura point longtemps à attendre l'héritage. » Et il fut satisfait de l'expérience. Robert n'avait point seulement tiqué. Et puis, en vérité, comment eût-il pu, une seconde, s'imaginer retrouver les traits du terrible chéri Bibi sous l'uniforme de cet accueillant commandant de notre belle marine nationale? Les dames suivirent, puis Maxime Dutouchet, puis les autres. Ce fut le marquis qui, ne laissant point au commandant le temps de prononcer encore quelques phrases mémorables de bienvenue et coupant court aux offres de secours dont les naufragés ne semblaient point avoir un besoin urgent, mit l'état-major du Bayard au courant de leur triste situation. C'étaient des victimes de la dernière tempête qui avait failli être si fatale au Bayard. Le marquis et ses invités revenaient de Buenos Aires, en France, sur la belle Diépoise, quand vers les 2 heures du matin, par un temps épouvantable, le navire, qui ne gouvernait que difficilement, était entré en collision avec un bâtiment auquel il avait dû faire de sérieuses avaries. La tempête, qui ne faisait qu'augmenter de violence, avait séparé aussi rapidement les deux steamers qu'elle les avait brutalement rapprochés, et dans les ténèbres, ils n'avaient pas tardé l'un et l'autre à se perdre de vue. La situation de la belle Diépoise était alors des plus critiques. Une large déchirure à son avant avait déterminé une voie d'eau avec laquelle il paraissait impossible de lutter. La proue du navire piquait déjà vers les flots et s'enfonçait de minute en minute. Maxime avait ordonné de mettre les embarcations à la mer. Elles étaient heureusement assez nombreuses pour contenir tout l'équipage du yacht et ses quelques passagers qui s'y ruèrent malgré l'état déchaîné de l'océan. Mais la mort semblait aussi bien assurée et aussi prochaine sur ses frêles chaloupes que sur le navire lui-même. Le marquis, s'en rendant parfaitement compte, avait refusé au dernier moment de quitter son bord, disant que, mourir pour mourir, il préférait expirer confortablement dans une cabine de la belle Diépoise. Aussitôt, plusieurs de ses amis, hommes et femmes, les femmes surtout, s'étaient trouvés de son avis, remarquant du reste que le navire, depuis quelques instants, semblait s'être arrêté dans sa descente au gouffre. Peut-être les cloisons étanches allaient-elles résister? Et ils restèrent là, pendant que les petites barques disparaissaient dans l'affreuse nuit. Et c'était vrai que les cloisons étanches devaient résister. Elles avaient résisté pendant 3 jours, donnant le temps à la tourmente de se calmer, à la mer démontée de devenir ce lac d'azur, au ciel de se nettoyer de tous ces nuages, aux passagers restés à bord de tout préparer dans les 2 canots pour le moment où ils se verraient dans la nécessité de quitter la belle Diépoise, événement qui s'était effectué il y avait 2 heures à peine, dans le calme le plus parfait et sans l'ombre d'une inquiétude. Car le marquis savait qu'il se trouvait sur la route très fréquentée des grands steamers qui se rendent soit aux Antilles, soit dans l'Amérique du Sud. La belle Diépoise avait disparu dans les flots, semant la mer d'épaves que l'on ne tarderait pas à rencontrer. Pas de nouvelles des autres embarcations, dont le sort devait être déjà fixé, soit qu'elles eussent péri, soit qu'elles eussent été recueillies, comme venait de l'être la chaloupe de Maxime du Touchet et de ses compagnons. Et voilà. Là-dessus, le marquis fit les présentations. D'abord les dames. Une grande blonde, très jolie, mais un peu tambour-major, Mademoiselle Nadège de Valrieux, dont le commandant et ses messieurs de l'état-major devaient certainement avoir entendu parler, car son passé dramatique, tout jeune encore, il est vrai, lui avait déjà valu de la gloire dans les deux mondes. Puis venait une brune qui ne tenait pas en place et qui déjà riait à tout l'équipage, Mademoiselle Carmen de Fontainebleau, la fameuse danseuse d'art qui avait tant de succès dans les valses d'amour. La troisième, très chic, très distinguée, avec cependant un peu trop de hauteur dans la façon de regarder choses et gens autour d'elle, du haut de son face-à-main. C'était Madame d'Artigues, femme de lettres. Elle était accompagnée de son mari, bien connu dans la presse sous le pseudonyme de Charles des Premières, brillant journaliste théâtral et mondain. Monsieur Robert Bourrelier. Enfin, le baron Proskov, grand seigneur polonais, qui avait eu la plus belle femme de Paris, et qui maintenant ne l'avait plus, parce que la chère baronne s'était entêtée à monter dans une de ses petites embarcations, trop fragile pour résister à l'océan en courroux. Le baron est bien triste. Et moi aussi, termina Maxime du Touchet. Cette désinvolture, en parlant d'une malheureuse qui était certainement morte à cette heure, et que le marquis avait beaucoup distinguée de son vivant, s'il fallait en croire la chronique diépoise, répugna à Chérie Bibi, qui avait toujours eu le sentiment de la famille. Chérie Bibi ne s'attarda point, lui, aux présentations. D'un bloc qu'il montra son état-major et son équipage, et déclara d'une voix de rogomme que le bayard tout entier se réjouissait de donner asile à des hôtes aussi gracieux. Il ne donna point d'autres détails pour le moment. Du Touchet et Bourrelier croyaient à première vue qu'ils avaient été recueillis par un transport militaire, dont le commandant était un brave homme un peu fruste. De fait, c'était un spectacle que Chérie Bibi s'essayant aux politesses. Le mot « gracieux » dans sa bouche jurait étrangement avec la grimace de son effroyable bouche qui adressait sur commande une risette étonnante à ces dames. Chérie Bibi avait une façon si rude d'être aimable ou de vouloir le paraître que les belles naufragées ne purent s'empêcher de sourire. Ce que vit Chérie Bibi et ce qui le froissa au plus profond de lui-même, car il avait toujours eu beaucoup d'amour-propre, comme on dit. Le marquis, le voyant rougir et faire une drôle de frimousse, comprit qu'il avait affaire au genre loup de mer susceptible. Il résolut de le mettre tout de suite à son aise et lui détacha une tape amicale sur l'épaule. « Commandant, lui dit-il avec une grande affectation de cordialité, c'est maintenant entre nous à la vie et à la mort. Vous avez été notre planche de salut. Le marquis du Touchet ne l'oubliera pas. » Et il lui secoua la main vigoureusement. L'autre se laissa faire, en roulant de gros petits yeux qui ne promettaient rien de bon, et en murmurant en aparté. « Ouais, mon vieux, à la vie, à la mort, tu l'as dit, Bouffi. » Il voulut tout de suite conduire ces dames aux plus belles cabines, dont il ordonna de déménager en 5-7 les occupants. Et, surmontant ses sentiments d'antipathie et de haine, il fut particulièrement aimable pour Robert Bourrelier et Maxime du Touchet. Ces dames, en traversant le pont, avaient été particulièrement étonnées d'apercevoir sur ce bâtiment tant de matelots et de soldats éclopés. Et, sous les képis et les bérets, d'aussi rudes et décidés visages, et qui les regardait passer avec des yeux d'aussi ardentes braises. « Vous revenez donc de la bataille, commandant ?» demanda la belle madame d'Artigues à chérie Bibi. « Vous ne sauriez mieux parler, belle dame, » répondit chérie Bibi. « De la bataille, en effet, nous revenons. Nous avons eu une révolte à bord. » « Une révolte à bord ? » s'écrièrent-elles toutes les trois en chœur. « Oh, racontez-nous ça ! Mais c'est épouvantable !»« Une révolte à bord d'un transport militaire ? » fit le marquis. « Est-ce possible ? Il n'y a donc plus de discipline dans notre marine. Décidément, tout s'en va. J'espère, commandant, que vous n'avez pas eu trop de mal à venir à bout des mutins. » Il a fallu en fusiller pas mal et en pendre quelques-uns, » répliqua d'une façon assez vague le commandant. « Mais c'est très amusant ce que vous nous racontez là !» s'écria la charmante Carmen de Fontainebleau. « Un naufrage, une révolte à bord, que d'aventures !»« Eh bien, ça n'est pas les sujets de conversation qui nous manqueront en rentrant en France !» fit remarquer mademoiselle Nadège de Valrieux. Toute la noblesse de France semblait s'être donné rendez-vous sur le Bayard. « Nous n'y serons pas demain, madame, en France, » crut devoir annoncer chérie Bibi. « Et où allons-nous donc, comme ça ?»« Oui, à propos, » firent-ils tous, « où nous conduisez-vous, commandant ?»« À Cayenne, sieurs et dames, pour vous servir. » « À Cayenne ? Vous êtes à destination de Cayenne ? Mais oui, marquis, avec un transport de condamnés, des faillis chiens de forçats qui nous ont donné du fil à retordre, allez !»« Des forçats ? Ah, oh, mon Dieu !» s'exclamèrent les dames de plus en plus intéressées. « Et où sont-ils ? Ils ne peuvent pas nous faire de mal, au moins !»« Ayez pas peur, on les tient serrés maintenant. » Ils ne sortent plus des cages, et le premier qui bouge, on lui brûle la excuse, sauf votre respect. Bravo, commandant, on est trop bon avec ce gibier-là, fit Maxime du Toucher. Est-ce qu'on devrait s'embarrasser de pareils misérables? Je parie qu'il y en a la moitié là-dedans qui, sous un vrai gouvernement, aurait été guillotiné. La moitié, au moins, concéda chérie Bibi. « Sans compter que nous avons ce chéri Bibi. »« Comment ? Chéri Bibi ? Chéri Bibi est ici ? C'est vrai, commandant, vous avez chéri Bibi ? Oh, quelle chance ! Montrez-nous-le tout de suite !» Comme il tournait la tête dans le moment que des hommes apportaient les bagages des naufragés, il se sentit comme brûlé par un regard, et il aperçut la comtesse qui venait d'arriver. D'abord, il ne la reconnut pas dans cette femme fine, élégante, souple, qui se cambrait dans un joli et très correct complet de voyage sortant de chez le bon faiseur. Un cadeau à lui, chérie Bibi, qu'il lui avait fait le matin même pour la remercier de ses bons services au moment de son évasion, et plus tard, au fort de la bataille. Dans ses pérégrinations à travers les cales, chérie Bibi avait éventré un jour une énorme caisse destinée aux élégantes de Cayenne, aux épouses de messieurs les administrateurs, et il était tombé sur un tas de falbalas, de robes, de dessous, de lingerie. Il avait donné tout ça à la comtesse, d'un coup. « Comme ça, avait-il pensé, je suis quitte, elle ne m'embêtera plus. » Il se trompait. La comtesse n'avait apprécié le cadeau de chérie Bibi que parce que ses fanfreluches allaient la faire plus belle aux yeux de chérie Bibi lui-même. Encore une qu'il aimait, qui était folle de sa gloire, et qu'il avait dû chasser à coups de pied dans les ténèbres des soutes pour qu'il lui fût loisible de dormir en paix, la nuit, comme un honnête homme. Une attitude aussi puritaine n'était point faite pour étonner de la part de chérie Bibi, qui, lui, avait une haute moralité amoureuse et qui était doué, à cause d'une laideur originelle, laquelle avait détourné de lui les regards des jeunes filles quand il était jeune homme, d'une extraordinaire, d'une farouche timidité, Une timidité qui allait jusqu'au crime. Pauvre chérie Bibi. Donc, la comtesse aimait chérie Bibi. D'autant plus que celui-ci, comme nous l'avons précisé pour l'histoire, l'avait repoussé à coups de pied. Si elle avait insisté, il l'aurait repoussé à coups de couteau. Or, depuis que les naufragés avaient été signalés, elle n'avait pas perdu de vue chérie Bibi. Elle avait assisté à son émoi, à son inquiétude, et finalement à sa joie méchante intérieure. Évidemment, chérie Bibi connaissait ces naufragés-là. D'abord, elle avait cru qu'il s'agissait des femmes, et elle montra les dents, comme pour les manger. Mais elle s'était bientôt aperçue que tout l'intérêt de l'aventure allait au marquis du Touchet. Que pouvait-il y avoir entre ces deux hommes? Elle se promit de le savoir avant qu'il fût longtemps. « Mon cher commandant, » fit la comtesse d'une voix singulièrement harmonieuse que ne lui connaissait pas encore chérie Bibi, « mon cher commandant, j'ai appris que vous donniez ma cabine à ces dames. Permettez-moi de vous faire tous mes compliments. C'est la meilleure du Bayard. » Ces dames aussitôt se récrièrent. « Était-il possible? Jamais elle ne permettrait. Comment avait-on pu penser? Elle ne voulait déranger personne. Et patati et patata. » « Mesdames, je vous présente la comtesse, » dit chérie Bibi, gentleman. Ces dames s'empressèrent de lui serrer la main. La comtesse, il y avait une comtesse à bord. La comtesse de quoi? Elles n'osèrent point le demander. Elles trouvaient seulement la présentation un peu courte, et Maxime Dutoucher et Robert Bourrelier, pour en sourire, se détournèrent de chérie Bibi. Ces vieux loups de mer, ça ne s'attardait point aux formules de politesse, et ça se moquait un peu du protocole. « Voilà la comtesse. Bonjour, bonsoir. Ça vous suffit ? Eh, ma foi, ça leur suffisait. Elle paraissait du reste très bien, cette comtesse. » Chérie Bibi crut devoir cependant ajouter, après un moment de réflexion, qu'elle allait rejoindre son mari au Brésil. « Et vous avez vu la révolte des forçats, madame la comtesse ?» demanda Carmen de Fontainebleau. « Comme je vous vois, madame, » répondit la comtesse sur un ton des plus comme il faut. Et c'est elle qui voulut procéder à l'aménagement de ses nouvelles compagnes. Elle se montra d'une grâce, d'un charme et d'une obligeance qui les captivèrent sur le champ. Elle mit à leur disposition toute sa garde-robe. Ces dames, qui n'avaient pu emporter dans leur chaloupe que le strict nécessaire, ne lui cachèrent point leur satisfaction. Elles admirèrent combien la comtesse était luxueusement montée en tout. Elles s'habillèrent pour le déjeuner, qui avait été retardé d'une heure sur leur prière, et elles passèrent dans la salle à manger du commandant, parées de tous leurs avantages. Pendant ce temps, ces messieurs avaient pu faire un tour sur le pont, et ils en revenaient avec une provision de remarques et d'étonnements qui devaient entretenir la conversation. Ce fut un déjeuner de gala magnifique, présidé par chérie Bibi, auquel avait été convié l'état-major et auquel on avait été obligé de trouver des places pour les principaux de ces messieurs qui s'étaient distingués dans la dernière affaire. Ils étaient venus supplier le commandant de leur accorder, pour cette fois, cet honneur. Ils n'avaient point tous l'uniforme d'officier, mais ceux qui, comme petit bon Dieu, n'avaient que celui de matelot ou de quartier-maître, avaient été mis à part à des petites tables pour les récompenser de leur bonne conduite, avait expliqué chérie Bibi. Ils étaient satisfaits, pourvu qu'ils pussent admirer ces dames et les entendre. Le commandant, qui se rendait parfaitement compte de l'état dangereux dans lequel se trouvait son équipage depuis qu'il avait reçu ces élégantes à son bord, avait réussi à en calmer momentanément l'effervescence en faisant savoir à ses hommes que ces dames se rendraient à la fête qui se préparait pour le soir et que si l'on se conduisait bien, il leur permettrait, à ces dames, de danser avec l'équipage. Il avait fait annoncer, par la même occasion, du reste, que si l'on se conduisait mal, on aurait directement affaire à lui, chéri Bibi. La ficelle avait lui-même veillé à la confection des plats et soigné particulièrement une morue à l'espagnol que chéri Bibi adorait. Boule de Gomme, qui avait une belle écriture, avait rédigé à plusieurs exemplaires le menu. Tout ce monde était de bonne humeur et avait grand appétit. Aussi fit-on d'abord grand honneur à un certain gîte à la noix qui embaumait. Chéri Bibi mangeait peu, veillant à ce que chacun eût sa ration et à ce que les vins coulassent en abondance. Et puis, il était un peu ému de son nouveau rôle de chef de maison qui reçoit, et il n'eût pas voulu, devant ses hommes, qui le regardaient avec curiosité, commettre des impairs. Il avait à ses côtés Madame d'Artigues et Nadège de Valrieux, et en face de lui, la comtesse. Un peu plus loin, sur la gauche, il avait fait placer Maxime du Touchet, à côté de Mademoiselle Carmen de Fontainebleau, de telle sorte qu'il fut obligé de se pencher pour l'apercevoir, ceci à seule fin que ne fût point gênée sa déglutition. Ainsi semblait-il remettre à son temps les affaires sérieuses touchant ce gentilhomme. Tout jusqu'alors s'était passé fort convenablement. Boule de Gomme, de la cage des financiers, qui connaissait son monde pour l'avoir détroussé au profit des grands restaurants et des cabarets de nuit, veillait du reste à l'économie générale du repas, c'est-à-dire à sa bonne conduite. « Cette viande est vraiment délicieuse !» déclara Mademoiselle Nadège de Valrieux. « C'est du gîte à la noix, madame !» expliqua chéri Bibi. « Une excellente pièce d'estomac !»« Je vous en prie, madame, il faut y retourner !» Elle y retourna, avec un tel empressement que chéri Bibi, offusqué de la gloutonnerie de cette demoiselle, finit par lui faire remarquer que la table n'était pas louée. Et il se retourna vers Madame d'Artigues, qui était celle-là une vraie femme du monde, ayant dû beaucoup souffrir pendant le voyage de la présence de ces demoiselles qui lui avaient été imposées certainement par la fantaisie d'un marquis du Touchet. Et il s'aperçut que Madame d'Artigues faisait les yeux doux au marquis et que Monsieur d'Artigues faisait, lui, celui qui ne s'en apercevait pas. Chéri Bibi pensa que cette dame tendait à prendre dans le cœur de Maxime du Touchet une place laissée vacante par le trépas récent de la baronne de Proskov, et que son mari ne serait point autrement fâché de céder son épouse à cet homme riche si celui-ci était dans la disposition de la payer le prix qu'il avait versé pour l'autre. Toutes ces combinaisons mondaines au milieu desquelles chéri Bibi se voyait jeté, de par sa fantasque destinée, lui firent tenir en piètre estime les gens de la haute, pour lesquels il n'avait du reste jusqu'alors montré qu'un respect relatif. Le champagne aidant, il voulut oublier les trames présentes pour courir par-delà les mers, au-devant de la figure angélique de Cécilie, chaste épouse, mère incomparable, attachée au devoir du foyer. Que n'eût-il donné, hélas, pour la voir auprès de lui, en place de ces poupées parfumées qui ignoraient jusqu'au doux nom de la vertu. Et pendant ce temps-là, ta femme te fait mon vieux. Cette phrase éclata comme une bombe dans le rêve de chéri Bibi. Elle avait été jetée avec un éclat de rire à Maxime du Touchet par la maîtresse de l'efflanqué Robert, qui pria aussitôt Mademoiselle Nadège de Valrieux de ménager ses expressions. Chéri Bibi était devenu pâle comme un mort. « Ça n'est pas vrai !» dit-il. D'abord, tout le monde regarda chéri Bibi, et puis on se regarda entre soi, et puis ce fut une explosion de joie. La comtesse alors prit la parole. « Qu'est-ce que vous avez dit, mon ami ?»« Moi ?» murmura la voix blanche de chéri Bibi. « Moi, je n'ai rien dit du tout. » et il lui semblait, en effet, qu'il n'avait point parlé, que c'était un autre qui avait prononcé des mots qu'il avait entendus comme tout le monde, et il ne s'expliqua point davantage. Il se tut farouchement, sentant très bien qu'il n'aurait point trop de tout son silence pour s'occuper à dompter la fureur qui grondait en lui, contre tous ces misérables qui avaient osé insulter son idole, contre cet ignoble seigneur qui n'avait pas eu une indignation, pas même une protestation. Très occupé qu'il était sans doute avec les mines de Madame d'Artigues, contre ce frère qui n'avait pas giflé cette donzelle qui avait parlé dans des termes tels de sa sœur. La comtesse prit la parole pour lui, avec une adresse et un tact merveilleux, avec une souplesse de grande dame que rien ne déconcerte et qui trouve toujours le mot qu'il faut dans les situations les plus difficiles. Elle fit un grand compliment de Chéri Bibi, de sa rude écorce et de son cœur d'or, de sa belle conscience et de toutes les qualités qui faisaient de lui un véritable chevalier français. Jamais elle ne l'avait entendu mal parler des femmes, et il poussait si loin le point d'honneur qu'il ne permettait point qu'on en dît du mal devant lui. Vraiment, cette comtesse était stupéfiante. Elle avait étonné sa cage par sa science de l'argot, et, dans le monde, elle s'exprimait avec une élégance. Hélas, cette charmante intervention n'aboutit qu'à faire retourner la conversation des naufragés aux environs de la pauvre Cécilie. « Eh bien, si tu ne l'es pas, méfie-toi, ça ne doit pas tarder. » Nadège et Carmen de Fontainebleau s'entendaient pour trouver des politesses de M. de Pontmarie envers la marquise du Touchet des plus intéressées. Elles le connaissaient depuis longtemps, cet oiseau-là. Jamais il ne serait resté là-bas s'il n'avait trouvé à s'occuper. « Eh bien, entre nous, il en a un goût !» acheva Mademoiselle de Varieux, qui, en sa qualité de maîtresse du frère de la sœur, ne pouvait souffrir la famille Bourrelier. La dernière fois que je l'ai aperçue à Dieppe, c'était en revenant des courses. Elle avait un chapeau. J'en retiens, s'il fait des petits. Carmen surenchérit. Ça, c'est vrai, elle est rien moche. Répète, dit le marquis, tu es trop drôle en disant cela. Et il riait. Chéri Bibi souffrait comme un damné qu'il était, mais jamais, depuis qu'il était au monde, il n'avait enduré un pareil supplice. Ses tortures de forçat n'avaient été que des caresses à son dur épiderme, à côté de la brûlure actuelle de son âme, de l'âme de Chéri Bibi. La comtesse s'effrayait de le voir. Elle craignit un instant qu'il ne tombât raide mort au milieu du magnifique déjeuner de gala. Et puis, peu à peu, les couleurs lui revinrent avec le sourire. Tout à l'heure, avait pensé Chéri Bibi, tout à l'heure, mesdemoiselles Nadège de Valrieux et Carmen de Fontainebleau, vous qui n'êtes point moche, je vous donnerai en pâture à mes hommes. Et quant à toi, Maxime du Touchet, quant à toi, il faudra que je trouve quelque chose. Quelque chose. Ses yeux venaient de rencontrer ceux du Canaque qui n'avait pas encore prononcé une parole. Et il se rappela la légende sinistre qui courait les cages sur ce singulier personnage. « Tout à l'heure, je te ferai manger par le Canaque. » Voilà pourquoi maintenant Chéri Bibi avait le sourire. Chapitre 10. La promenade au jardin des plantes. À partir de ce moment, il prit la direction de la conversation et lui donna un tour singulièrement enjoué. Il réussit avec brio un historique assez burlesque de la révolte des forçats et des extraordinaires aventures que l'équipage venait de traverser à la suite de l'audacieuse évasion de Chéri Bibi. Il raconta les événements par le détail, et si bien, ma foi, que Chéri Bibi ne les eut pas mieux narrés lui-même. Tantôt il parvenait à des effets d'horreur qui faisaient frissonner ses dames, et tantôt à des effets de comique que soulignait la formidable hilarité de son bruyant état-major et des hommes de l'équipage, qui s'étaient particulièrement distingués dans la dernière affaire. Si bien qu'entre l'évocation tragique du commandant et la joie inquiétante de la plupart des convives, les naufragés sentirent se glisser chez eux une angoisse encore mal définie qui commença de les mettre mal à l'aise. Le champagne coulait à flots et la gaieté, à peu près générale, s'en accrut d'une façon assez grossière. C'est-à-dire que l'état-major, en particulier, commença d'oublier la retenue qui est toujours de mise sous notre uniforme national et surtout devant les dames. Il y avait là un certain lieutenant de vaisseau qui faisait beaucoup de bruit pour lui tout seul et que l'on ne parvenait à calmer. « Veux-tu bien fermer ton plomb, gueule de bois ?» Ainsi, ces messieurs avaient tous des surnoms étranges et se lançaient d'un bout de la table à l'autre des « petits bon Dieu » et des « boules de gomme » avec une familiarité que n'arrêtait nullement la différence des grades. Le baron Proskov, la pensée toujours assombrie par la perte de sa très chère femme, était lui-même sorti de son état comateux pour exprimer à ses compagnons, par son regard ahuri, l'étonnement qu'il avait de découvrir un pareil relâchement dans les mœurs de la marine française. Robert Bourrelier hocha lentement la tête, et Maxime Dutouchet toussa d'une façon qui fut comprise de Monsieur d'Artigues, lequel ne put s'empêcher de murmurer, en sa qualité de journaliste qui a coutume de fréquenter les milieux officiels. « On n'a pas idée de ça, rue Royale !» Ces divers mouvements furent parfaitement saisis de Chéri Bibi, qui expliqua le ton général de cette petite fête avec une phrase « bon enfant » qui lui valut l'approbation de ces dames. « À bord du Bayard, nous ne faisons qu'une seule et même famille. »«
C'est même extraordinaire, » fit Madame d'Artigues, « comme il y a entre vous tous comme un air de ressemblance. »«
Cet air-là tient sans doute, » émit Mademoiselle Nadège de Valrieux, « à ce que vous avez tous la tête rasée comme des champignons. »«
Ou comme des forçats, »
ajouta Mademoiselle Carmen de Fontainebleau en riant de toutes ses dents à cause de ce qu'elle croyait être une excellente plaisanterie. Or, cette dernière réflexion jeta tout à coup, comme on dit, un froid. Il y eut un silence, pendant lequel tous ces hommes se regardèrent. Et puis, petit bon Dieu ayant déclaré, en se tapant sur la cuisse, qu'elle était bien bonne, un formidable éclat de rire emplit le carré du commandant. Chéri Bibi, avec sa présence d'esprit coutumière, répliqua que si ses officiers et ses hommes s'étaient fait raser la tête d'aussi près, c'était justement pour montrer le bon exemple aux forçats.
Le commandant a beau avoir des galuches, cria le rouquin, ça ne l'empêche pas d'être un bon zig.
Oui, oui, s'exclamèrent-ils tous, un vrai bon zig. Carmen de Fontainebleau approuva. Il en a l'air.
Vous êtes un bon zig, fit Madame d'Artigues, mais qu'est-ce donc que des galuches?
« Des galuches ?» répondit Chéri Bibi sans s'émouvoir. « C'est, dans l'argot militaire, des galons. Et ne croyez point, sieurs et dames, crut-il devoir ajouter, que si je permets à mes hommes de me traiter comme leur père de famille, la discipline est à s'en ressentir. Je connais mon devoir, et je suis terrible quand il le faut. Certes, si je ne joignais pas aux qualités du cœur, continua Chéri Bibi du ton le plus naturel du monde. « Celle du caractère, où en serais-je avec une cargaison pareille? Je vous le demande. Et si vous me le permettez, je vais vous fournir la réponse. À cette heure-ci, après la révolte de l'autre jour, c'est nous qui serions dans les cages. » Une triple salve d'applaudissements et de hurrahs accueillit cette audacieuse hypothèse du commandant du Bayard.
« Ça, c'est vrai !» acquiesça Mademoiselle Carmen de Fontainebleau.
On ne doit pas tous les jours rire quand on a la charge de pareils bandits. »
Mais enfin, demanda madame d'Artigue, pour se révolter, il fallait que ces misérables fussent d'accord. Ils étaient dans des cages et surveillés. Comment ont-ils pu faire pour s'entendre ?
Chéri Bibi, vers qui tous les yeux étaient tournés et qui éprouvait une certaine satisfaction de l'intérêt que l'on semblait attacher à ses moindres propos, en profita pour faire à ses sieurs et dames un petit cours de bagne. Il semblait du reste que l'importance du sujet traité l'inspira particulièrement, et sa phraséologie prenait, sans qu'il s'en doutât, un petit air professionnel propre aux conférenciers.
« Vous ne connaissez point ces hommes, » dit-il avec emphase, « sans quoi vous ne vous étonneriez de rien à ce point de vue. Rien ne vient trahir l'intimité qui s'établit entre eux. Couchés sur le même banc, aucun mouvement, aucun signe ne révèle qu'ils se connaissent, si par hasard ils se sont déjà rencontrés dans la vie ou dans les prisons. Ils ont un langage à eux, incompris des autres. Dans la pose de leurs pieds, dans le mouvement naturel de leurs bras, dans la ligne du regard, il y a une parole, un dictionnaire, une langue complète. Cette causerie muette échappe à l'intelligence ou à la longue expérience du garde-chiourme, du surveillant militaire et du chef le plus habile lui-même. À la mienne, pour tout dire. Cependant, certains de mes hommes et votre serviteur ont pu surprendre quelques termes de ce langage mystérieux. Tenez, nous allons faire une expérience. Avance ici, petit bon Dieu, et place-toi là, à l'autre bout de la salle. Toi, le rouquin. Nous naviguons depuis si longtemps ensemble que vous voyez, je n'hésite pas à les appeler par leur petit nom. Allons, commencez. Dites-vous quelque chose. Bien, très bien, c'est suffisant. Allez-vous vous taire, tas de mal élevés ?
Mais ils n'ont pas bougé, s'écria madame d'Artigue.
Vous croyez cela, madame ? Eh bien, vous vous trompez. Par la manière dont le rouquin a relevé les sourcils et mis ses mains dans ses poches, et par la position de sa lèvre inférieure, d'autre part, par la position des pieds de petit bon Dieu et par les trois directions successives de ses regards, il s'est établi entre ces deux hommes une conversation complète que je ne me permettrai pas de vous répéter.
« Ah si, 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 mon petit commandant, dites-nous ce qu'ils ont dit. »
« Vous le voulez ?» fit chéri Bibi à madame d'Artigue, qui se montrait la plus empressée. « Soyez donc exaucés. »
Ils ont dit, en parlant de vous dans leur argot particulier, « Elle est gentille, la petite dame. »
« Le gros, monsieur le marquis, lui fait des yeux doux, mais le maigre, votre mari, les a vus. Faudra profiter de la querelle tout à l'heure pour lui déclarer notre amour. »
« Bravo, bravo, c'est incroyable !» s'exclama mademoiselle de Valrieux.
« Mais c'est vrai !» affirma Carmen de Fontainebleau.
« Madame, je vous fais toutes mes excuses !» exprima en beauté chéri Bibi tourné vers madame d'Artigue. « Mais ces messieurs n'ont point l'usage du grand monde et s'étonnent assez facilement du moindre jeu de société. »
« Je vous en prie, c'est très amusant !» déclara en minaudant la belle madame d'Artigue. « Et votre conversation, mon cher commandant, est des plus instructives !»«
Voilà tant d'années, madame, que je vis avec les forçats. »«
Tout cela est parfait, » dit Robert Bourrelier. « Les misérables s'entendaient. Mais comment ont-ils fait pour s'évader ? Votre chéri Bibi, nous avez-vous dit, était au fer et surveillé par deux gardiens.
Ah, l'évasion de chéri Bibi, fit le commandant. Je vous expliquerai cela tantôt sur les lieux même. Les fers, les chaînes, ça n'est pas ce qui les arrête. Chéri Bibi m'a révélé lui-même 12 manières, vous entendez bien, pas une de moins, de rompre les chaînes ou de cacher les morsures que la lime ou le ciseau ont déjà faites. Et des limes et des ciseaux, ils en ont tant qu'ils en veulent. Chéri Bibi, pour le jour de ma fête, m'a fait cadeau d'un panier en paille dont chaque chalumeau cachait une scie presque imperceptible.
Oh, ce chéri Bibi, parlez-nous encore de lui, commandant.
Chéri Bibi, déclara le commandant avec orgueil, ouvre toutes les serrures, tous les cadenas, avec un simple fil d'archal.
Et avant que la révolte n'éclatât, dit Maxime du Touchet, vous ne vous doutiez de rien? Comment le secret a-t-il pu être si bien gardé? Car enfin, c'est extraordinaire que parmi ces 800 condamnés, il n'y en ait pas eu un, pas un seul, pour vendre les autres.
Le commandant avala un grand verre plein de champagne.
Des renards et des moutons, c'est bien rare chez nous.
Mais il comprit tout de suite, sur un signe du canac, qu'il venait de faire une gaffe. Il expliqua, en pataugeant un peu.
« Je veux dire, dans notre monde, dans le monde que nous avons à surveiller, dans le monde des forçats, quoi.
Il y en a encore de temps en temps, mais cette espèce d'animal qui trahit son semblable tend de plus en plus à disparaître. C'est que la vendetta du bagne est terrible et expéditive. Si le mouton habite dans les cages, un matin on le trouve mort, sans qu'il soit possible aux plus habiles médecins de découvrir la cause de ce brusque décès. Si c'est à Cayenne, tantôt un énorme entassement de bois s'écroule comme par l'effet de la maladresse des travailleurs, et le terrain déblayé, on ramasse un cadavre. Tantôt, par un temps de forte mer, quand une grosse chaloupe de fatigue lutte contre les flots, un homme disparaît dans l'abîme. Est-ce un malheur dû à l'inexpérience? Non, c'est un châtiment infligé à la délation. La chiourme, mesdames et messieurs, a ses tribunaux qui prononcent toujours avec justice ses arrêts, a des juges qui disposent, eux aussi, d'une échelle de peine. Il peut y avoir des circonstances atténuantes si la faute entre camarades est légère, mais en tout cas, quand elle n'entraîne pas la mort, elle implique le mépris. Le condamné perd l'estime de ses camarades. L'estime des siens, mesdames et messieurs, c'est la conquête la plus précieuse que puisse faire un condamné. Cette estime a également ses degrés, et Dieu sait à quelles conditions il faut satisfaire pour atteindre le point le plus élevé. Mais s'il n'est pas donné à tous de se placer au sommet par des exploits brillants, fit entendre, avec un geste d'une ampleur cicéronienne, l'incroyable chéri Bibi. Chaque condamné a vraiment à cœur de prendre sa place et de la dignement conserver. Il sait que tout au bas de l'échelle, comme je vous le disais tout à l'heure, est écrit le mot « mépris ». Et plus d'un a prouvé qu'il préférait encore la mort à ce mot-là.
« Mais, mon commandant, il semble, »
fit remarquer avec un commencement d'effroi la belle Madame d'Artigues,
« il semble... Dieu me pardonne, que vous les admirez. »
Moi, les admirer?
Protesta chéri Bibi avec la figure de l'innocence.
Dites que je les plains, madame.
Chéri Bibi lui-même, madame, est bien à plaindre, soyez-en assurée. J'ai eu de longues conversations avec ce curieux personnage. Je puis vous affirmer que le malheureux garçon n'était point né pour épouvanter le monde. Les circonstances et les hommes s'en sont mêlés, comme en une sorte de jeu fatal. Ah, c'est une chose commode, quand on a le pied au dehors de l'abîme des maux, de donner des leçons, de conseiller ceux qui sont malheureux. Mais il ne faut pas oublier que la fatalité est là pour un coup, sieurs et dames. Avoir de la veine ou ne pas en avoir. Je ne dis pas que tout est là, je dis que presque tout est là. « To be or not to be, fatalitas, fatalitas !»
s'écria dans un vaste accès de lyrisme, où il mêlait l'anglais et le latin, l'étonnant chéri Bibi.
« Oh, fortune, fortune! Devais-tu associer cet homme juste au plus scélérat des mortels? En toute affaire, il n'est rien de plus funeste que la société des méchants. Le fruit en est amer. » C'est un champ de misère où l'on moissonne la mort. mesdames et messieurs, je vous demande bien pardon, je ne sais plus tout à fait ce que je dis, avoua l'amoureux de Cécilie en essuyant les larmes qui coulaient de sa rude paupière. Je crois que j'ai pris un petit verre de champagne de trop. Allons prendre l'air sur le pont, et nous irons faire un petit tour ensuite au jardin des plantes. Toute la société se leva dans un singulier état d'esprit. L'émotion du commandant avait impressionné différemment les convives de cet extraordinaire repas de gala. Les forçats ne pouvaient s'empêcher de se rappeler que plusieurs d'entre eux avaient toujours prétendu que Chéri Bibi avait été tout d'abord une victime de son innocence. Quant au naufragé, il s'expliquait difficilement l'attendrissement de ce vieux loup de mer en parlant de ce monstre de Chéri Bibi.
« Mais il pleure !» dit tout bas Madame d'Artigue à son mari. « Ne croirait-on pas qu'il l'aime ?»«
Comme un frère !» répliqua Chéri Bibi qui avait entendu.
« Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ?»«
Rien, madame. Vous voyez bien qu'il est saoul !» répliqua Gueule de Bois.
« Ce brave commandant, il en a une muffée !» faisait Robert Bourrelier.
Il n'est peut-être pas aussi pompette qu'il en a l'air, dit Mademoiselle Carmen de Fontainebleau à Mademoiselle Nadège de Valrieux. À ce qu'il paraît que ce Chéri Bibi est tout à fait surprenant, et que malgré sa laideur, il est doué d'un charme irrésistible. Il aura ensorcelé ce pauvre homme, qui n'a pas l'air d'avoir la tête trop solide.
Moi, répliqua Mademoiselle Nadège de Valrieux, il y a une chose qui m'a frappée dans tout ce qu'il a dit, c'est que les forçats ont 10 manières de sortir de leur cage. Ça n'est rassurant pour personne, et nous ne sommes pas tout à fait en sécurité ici.
Tu pourrais bien avoir raison, répondit l'autre. Le malheur est que je ne vois pas où nous pourrions nous réfugier. Mais tout de même, c'est vrai que je suis loin d'être tranquille. Tous ces gens-là me font peur avec leurs histoires de forçats. Et puis, ça n'est pas pour dire, mais ils en ont des têtes.
Alors, nous allons voir Chéri Bibi, mon cher commandant ?
Demanda Carmen de Fontainebleau à celui-ci qui passait près d'elle en bousculant un peu son monde.
Suivez-moi, ordonna-t-il.
Comme il passait près de l'échelle, à côté aux cuisines, il arrêta la procession pour lui montrer la cambuse et toutes les traces du combat qui avait soutenu Chéri Bibi. Il expliquait.
« Voyez, nous étions ici. Lui, il était là, et il nous canardait, fallait voir. Il n'y a pas à dire, c'est un brave. Nous étions plus de 100 contre 1, et il n'y avait pas moyen d'approcher. Il sautait d'une pièce dans l'autre comme s'il avait été en caoutchouc, et malgré ça, à l'épreuve de la balle. Enfin, il se réfugia dans la cuisine, et là, il n'y avait pas d'issue. Fatalement, il était pris. On s'est précipité. Plus personne. Où était-il passé ? Mystère. Après avoir regardé partout, nous nous en allâmes. Eh bien, je peux vous le dire maintenant, parce qu'il nous a tout raconté. Nous n'étions pas plus tôt partis qu'il sortait de la soupe qui commençait à chauffer, montrait sa tête au-dessus de la marmite, constatait qu'il était bien seul, quittait son bain culinaire et retournait se cacher dans la cambuse sous les provisions de légumes que nous avions tout à l'heure sondées pour constater qu'il n'y était pas.
Que voulez-vous ? Nous n'avions pas songé à regarder dans les marmites. Elles fumaient.
Comment pouvions-nous supposer que Chéri Bibi était caché dans la soupe qui commençait à chauffer à petit feu ?
Évidemment, elle ne bouillait pas encore. Mais il m'a dit que quand il est sorti, il était temps, car le pauvre garçon n'a jamais pu supporter de bain au-dessus de 40 degrés, bien qu'il eût la peau assez dure.
Oh, il avait plus d'un tour dans son sac.
Il faut bien dire aussi qu'il était singulièrement aidé par la complicité d'un de ses amis de La Rochelle, qui avait réussi à se faire engager sur le Bayard au dernier moment avec quelques soutiers pour remplacer des hommes qui nous faisaient défaut. Tout ça, c'est de la bande à Chéri Bibi. Vous pensez s'il travaille pour lui ? L'aide de cuisine, qui avait la responsabilité de la nourriture des forçats, s'était fait le commissionnaire des bagnes, sans que la plupart des condamnés s'en fussent seulement doutés. lors de la distribution du fricot à la ficelle, c'est lui qui trouvait le moyen. Quand tout le monde était occupé autour des baquets ou quand il revenait lui-même chercher ses baquets vides, dans le moment que les hommes, sortis de cage, faisaient leur promenade sur le pont, de glisser dans les sacs des bouteilles de rhum dont ces messieurs se régalaient, et plus tard, des armes, des couteaux, des revolvers volés à la salle d'armes ou directement aux gardes-chiourmes. Ce mitron, sieurs et dames, était malin comme un singe et adroit comme un pickpocket. « Est-ce que nous allons le voir aussi ?» demanda mademoiselle Nadège. « Non, madame, il est mort. Nous l'avons perdu. Et chérie Bibi en a eu bien du chagrin, car cet enfant, il était tout jeune, 22 ans à peine, et de grands yeux bleus, aimait chérie Bibi comme un chien aime son maître. Il l'avait toujours suivi partout, dans tous ses malheurs. » Et souvent on l'avait empêché de mourir de faim, car il était plein d'imagination et de cœur. Pauvre petit mitron, victime de ce sentiment sacré entre tous qui s'appelle l'amitié. Ne craignez rien, mesdames, je ne vais pas encore m'attendrir sur celui-là. Il nous a donné trop de tintouin. C'est lui qui avait tout préparé avec les soutiers. Depuis le départ de l'île de Ré, il travaillait avec eux dans les cales, trouant une cloison par-ci, une planche par-là, se ménageant des chemins à travers le navire que nous ignorions totalement, et préparant à chérie Bibi, dans des caisses que nous croyions pleines de marchandises, des refuges que nous n'aurions jamais soupçonnés. Et quand chérie Bibi fut évadée, lui prêtant des costumes du bord qui permettaient quelquefois à celui-ci, en plein jour, de se promener dans les entrepôts. Enfin, ce furent ces hommes qui, au moment de la bataille, volèrent les fusils de mes braves artoupans pour les passer à la rébellion. Vous voyez, chers messieurs et dames, si nous étions propres. » Ayant dit, chérie Bibi fit signe que l'on pouvait maintenant monter sur le pont, tel le cicérone officiel d'un bâtiment public, dont le métier est de montrer et d'expliquer les curiosités dont il est le gardien fidèle. Sur le pont, la caravane s'extasia. On se serait cru, ma foi, à la foire de Neuilly. On avait mis des petits drapeaux partout et disposé des girandoles de lanternes vénitiennes. Le commandant expliqua qu'après les terribles drames qui venaient de se dérouler à bord, ces hommes avaient besoin de distraction et qu'il leur avait promis une petite fête où les uns chanteraient, les autres joueraient la comédie, comme on a accoutumé à bord des vaisseaux de l'État, et où finalement tout le monde danserait au rythme d'un orchestre improvisé. Puis, s'adressant particulièrement à mesdemoiselles de Valrieux et de Fontainebleau, chérie Bibi ajouta « Si vous étiez assez aimables, mesdames, pour ne point dédaigner les applaudissements de pauvres gens de mer comme nous, vous n'hésiteriez pas à nous faire la grande faveur d'un numéro. Je suis sûre que mes hommes en conserveraient un souvenir ineffaçable. » Comment refuser? Et puis, la proposition les amusait, et cette petite fête contribuerait sans doute à dissiper cet étrange sentiment de malaise qui continuait de les envelopper, sans qu'elles en pussent dire exactement la cause. Gueule de bois, appela le commandant. Le second immédiatement se précipita. « Tout est prêt dans les bagnes ?»« Tout est prêt, mon commandant. » Et chérie Bibi ajouta plus bas, « Savent-ils qu'au moindre mot je les fais fusiller à travers les grilles ?»« C'est entendu, mon commandant, ils le savent, et je crois qu'ils se le tiendront pour dit. »« Eh bien, en route pour le jardin des plantes !»